porte-parole de politicien, Éric Duhem est avec nous. Alors, la politique, justement, est-ce que les patins sont assez aiguisés?
Mais là, il me reste 12 mois encore pour travailler là-dessus. C'est clair que je suis parti un peu d'avance parce que je savais que ça prend du temps en politique. Le chef du Parti conservateur du Québec, mon prédécesseur, Adrien Pouliot, a démissionné au mois d'octobre l'année dernière. Et j'ai pris une longue réflexion. J'ai fait un défi 28 jours que j'ai respecté et au terme desquels j'ai décidé d'y aller parce que je savais qu'on avait le temps justement de se faire connaître un peu, de ramasser un peu d'argent, de ramasser, d'avoir des membres. Ben, c'est important, la politique. C'est un sport d'équipe, comme je disais. C'est pas juste un one-man show.
Non, exactement. C'était très touchant. J'ai lu votre discours, enfin, et puis vous aviez... C'était très émouvant. Vous avez dit que vous avez été très ému et très sensible dans ce discours-là. Vous étiez ému le 17 avril?
Oui, très ému parce que honnêtement, quand je me suis lancé, mon objectif, c'était de vendre 3 000 cartes, d'avoir 3 000 sympathisants qui puissent voter pour moi pour être élu chef. Finalement, il y en a eu, au moment du vote, on était rendu à 15 000. J'ai été élu par 96 % des militants. Donc, pour moi, c'était un vote de confiance très, très fort, puis ça m'a touché. Et depuis ce temps-là, ça n'a pas cessé. On est rendu plus de 35 000 au moment où je vous parle. On est le parti politique qui compte le plus de membres au Québec à l'heure actuelle. On est le parti politique qui a recueilli le plus grand nombre de dons en 2021, selon le directeur général des élections du Québec. On est le parti politique qui connaît la plus forte croissance dans les sondages. Même dans les sondages de la CAQ, on est passé de 1 à 9 %. On est maintenant devant le Parti québécois, devant le Parti libéral du Québec chez les francophones. Dans la région de Québec, on est bon deuxième, puis nos chiffres ne cessent de croître. Donc, on a un momentum. Je pense qu'on peut dire qu'on a le vent dans les voiles. En politique, il faut toujours être prudent parce que quand ça monte,
ça
redescend.
Il y a des vagues.
C'est des montagnes russes un peu.
Il existe des vagues.
Il y a des vagues. Mais disons que là, c'est le fun parce qu'on est dans une vague ascendante.
Qu'est-ce qui est différent du parti de Maxime Bernier, votre parti?
Bien, plusieurs choses. D'abord, c'est un parti historique, le Parti conservateur du Québec. On a eu, les gens l'oublient, mais il y a eu 6 premiers ministres du Québec qui ont été des conservateurs. Je pense que la différence, c'est que nous, c'est d'abord et avant tout, on existait pour des raisons économiques. C'est un parti qui était là pour des raisons économiques. C'est sûr que l'arrivée de la crise sanitaire a changé un peu la donne, mais notre membership, par exemple, j'ai même fait un sondage, il y a à peu près 10 000 de nos membres qui ont répondu. La majorité a voté conservateur aux dernières élections fédérales. Donc, mais il y a beaucoup de gens, effectivement, qui ont voté pour Maxime Bernier ou même pour le Bloc québécois.
Mais 800 000 pour Maxime Bernier.
Mais je parle parmi les conservateurs du Québec. Puis le fait qu'on est à 9 %, je vous rappelle que M. Bernier a fait un peu plus de 2 % au Québec. Donc, je pense qu'on ratisse beaucoup plus large. Mais c'est sûr que les gens qui sont contre les mesures sanitaires présentement, je pense qu'on fait le plein. Puis c'est sûr que ces gens-là, présentement, on est le seul parti... qui parle au nom de ces gens-là. Moi, je suis encore un peu... Est-ce que vous parlez dans tout d'émotion? Puis moi, une des choses qui m'a beaucoup ému depuis 24 heures, c'est que, je ne sais pas si vous le savez, mais dans quelques jours, l'Assemblée nationale va obliger le passeport vaccinal pour rentrer à l'Assemblée.
Mais il y a deux partis qui sont contre
vacciné. Oui, mais ça fait un an et demi qu'ils sont avec le gouvernement et qu'ils disent rien, ils commencent tranquillement à prendre
leur
lien.
Ils ont dit non hier.
Mais hier, finalement, ils ont commencé à se distancer. Mais moi, oublier la vaccination ou pas, diviser les Québécois en deux puis dire que des gens n'ont pas de droit démocratique. Moi, je suis double vacciné, je vais pouvoir continuer à entrer. J'ai ma passe pour entrer à l'Assemblée nationale comme chef d'un parti, je vais pouvoir y aller. Mais je trouve ça tellement dangereux, puis ça me rappelle tellement des mauvais souvenirs. Et je ne comprends pas qu'on ne soit pas plus nombreux à réagir à ça. Parce que là, au début, on disait que c'est des services non essentiels. Aller au restaurant, aller dans le bar, bon, on peut avoir un débat, puis c'est correct. Mais là, quand on est rendu, qu'on commence à jouer avec les droits démocratiques de certains citoyens parce qu'on n'est pas d'accord avec leurs choix ou avec leurs idées, là, on rentre dans une autre ligue.
Ben c'est un gouvernement qui joue à la police en ce moment. Et ce qui est embêtant, c'est que vous avez d'ailleurs défendu le comédien Guillaume Lemaitre-Vierge. C'est qu'à partir du moment où il y a quelqu'un qui ne pense pas comme le gouvernement, il n'a plus de carrière.
C'est un paria.
La carrière, elle se termine maintenant, à partir du moment où quelqu'un... Et ça peut être dangereux à tout point de vue.
Moi, là, je sais que j'ai fait de la polémique dans ma vie. Je sais que j'ai des commentaires très incisifs. Je sais que je divise d'une certaine façon. Cela étant dit, quand tu es premier ministre du Québec, tu ne peux pas jouer à ce jeu-là. Le rôle d'un premier ministre québécois, c'est de rassembler son peuple. François Legault, il n'est pas juste le chef des caquistes. Il est le premier ministre de tous les Québécois. Et j'ai l'impression qu'il l'oublie présentement. Et moi, ça m'inquiète beaucoup la dérive dans laquelle on est actuellement, puis de voir pendant un an et demi, on a été la seule voix à l'Assemblée nationale à s'élever contre ça. Il y avait trois partis qui ont appuyé à peu près toutes les mesures coercitives, une après les autres. Là, vous avez raison, ça commence peut-être enfin à changer, mais je ne comprends pas comment ça a été possible. Je suis convaincu que dans quelques années, on va regarder en arrière et on va se dire, mais comment on a pu déraper à ce point-là?
Vous seriez le premier ministre du Québec en ce moment?
Oui.
En gérant la crise, vous feriez quoi?
Mais d'abord, j'aurais protégé les vulnérables et laissé les autres vivre plus librement. Et comme à peu près toutes les législations qui nous entourent, puis c'est ça qui est le problème, c'est qu'on a eu au Québec un bilan quand même somme toute désastreux. Là. Si on regarde partout à travers les autres provinces, on est la pire province de loin en termes de morts. Puis on va nous dire, oui, mais c'est à cause des CHSLD. Mais c'est justement, qu'est-ce qui s'est passé dans les CHSLD? On a des brides d'informations de ce qui s'est passé à Erin.
Donc, vous feriez quoi?
Bien, j'aurais protégé les vulnérables, j'aurais agi, puis j'aurais laissé les gens plus libres. Je pense que c'est important de... T'sais, regardez, à l'Assemblée nationale, là, ils vont mettre un passeport vaccinal. Il y a eu combien d'éclosions à l'Assemblée nationale depuis le début de la crise? Zéro. Est-ce qu'il y a une recommandation de la santé publique pour imposer ça? Non. C'est comme ça dans plein d'autres domaines. Là. On est en train lentement, toujours de la campagne de peur. J'aurais, au lieu de faire peur aux gens, j'aurais tenté de les rassurer. J'aurais pas agi de cette façon-là. J'aurais pas subventionné les médias pour donner l'impression. C'est important la neutralité médiatique. Et présentement, il n'y a plus apparence de neutralité médiatique parce que le gouvernement subventionne beaucoup plus que n'importe quel autre gouvernement sur le continent les médias. Puis je vous dis pas que les médias font pas leur travail et sont pas objectifs. Je vous dis juste que l'apparence de neutralité n'existe plus. Le vernis médiatique en a mangé un coup. Parce que vous savez, même, on vient de parler de ce qui se passe à l'Assemblée nationale avec les passeports. Vous savez que même les journalistes qui sont pas vaccinés maintenant pourront plus couvrir la politique. On est rendu là. Il y a toutes sortes de conséquences, de choses qui sont en train de se produire. Puis après ça, on dit que les gens sont complotistes, mais cette théorie du complot? Qui alimente le fait que les gens se posent des questions parce qu'on leur donne pas toute l'information?
Le mot complotiste, oui. Il n'est pas un peu galvaudé?
Ben oui, il est très
galvaudé.
Parce que
finalement, de ne pas être d'accord sur quelque chose, on pourrait dire « je suis contre », mais complotiste, ça veut dire que la Terre est plate. Là,
c'est ça. Moi, je me suis fait accuser de ça, puis on a accusé tout le monde qui s'est posé des questions. Puis moi, je pense que se poser des questions, ça ne fait pas de nous un complotiste, ça fait de nous quelqu'un d'intelligent. Quelqu'un qui ne se pose pas de questions puis qui obéit béatement, pour moi, c'est pas un signe d'intelligence. Et donc, moi... Tu sais, les citoyens, là, ils sont pas contre, ils sont pas pour, ils veulent comprendre. Et au lieu de leur faire peur, puis au lieu de les menacer, pourquoi on n'a pas expliqué aux Québécois?
En octobre prochain, oui. Il y aura donc des élections.
Oui, presque jour pour jour. Ben,
exactement.
Hein?
Qu'est-ce que vous allez avoir dans votre programme qui va intéresser les Québécois?
D'abord, j'espère que la crise sanitaire va être chose du passé, puis qu'on va pouvoir parler d'autre chose, parce que c'est très difficile depuis un an et demi au Québec de parler d'autre chose. Cela étant dit, moi, je crois qu'on a quand même vécu un traumatisme là, depuis 18 mois. Il va falloir qu'une fois pour toutes, on ait un débat sincère, ouvert, honnête sur l'avenir du système de santé au Québec. Si on est obligé de confiner le Québec autant, c'est parce qu'il fallait que les Québécois se sacrifient pour le système de santé, pour sauver le système de santé. Normalement, c'est le système de santé qui est supposé sauver les Québécois, pas l'inverse. Donc moi, je vais proposer une importante réforme en matière de santé. Ça va être mon principal engagement électoral.
En ce moment, il y a des consultations pour la loi 96. Oui. Quel est votre point de vue? Parce que le français se meurt.
Oui.
Vous l'avez vu vous-même quand on déambule dans les rues, juste à côté du studio ici, on peut voir que
moi, je vous
on
ai
existe
dit,
plus.
Là, je suis quelqu'un qui est nationaliste. Je pense que c'est important, surtout... Quand tu aspires à devenir premier ministre du Québec, puis c'est ce que je fais présentement, tu as un devoir parce que tu vas être le principal représentant politique en Amérique des francophones. Et ça, c'est une lourde responsabilité. Là. Tu t'embarques pas pour être premier ministre du Manitoba. Puis j'ai rien contre le Manitoba, puis c'est pas péjoratif ce que je dis, mais il y a quelque chose de fondamental, puis tu n'as pas le choix de promouvoir puis de défendre la culture, la langue, l'identité québécoise. Pour moi, c'est fondamental.
Donc, est-ce qu'elle est assez forte, cette loi de 96, pour
moi,
vous?
Ce que j'aime pas dans la loi 96, honnêtement, c'est le fait qu'on soustrait cette loi-là à 41 ou 42 articles de la Charte des droits et libertés. Avec ce qu'on vient de vivre ces derniers mois, où on a vu que nos libertés puis nos droits démocratiques étaient très menacés, moi, j'ai très peur de voir cette dérive-là, puis ça s'invite dans un débat sur la langue. Puis je suis pas contre le contenu du projet de loi. D'ailleurs, ça vient du rapport Samson, qui est la députée qui maintenant siège pour le Parti conservateur du Québec, Claire Samson.
Oui.
Mais c'est pas ça le problème, c'est que j'ai... Puis les gens ont le droit de contester devant un tribunal une loi. Ça fait partie de notre système judiciaire, qu'on aime ça ou pas. Et là, qu'avant même que les tribunaux en soient saisis, on s'assure de soustraire cette loi-là. J'ai un gros point d'interrogation sur cet enjeu-là à l'intérieur de la loi. C'est l'élément qui, pour moi, me fait le plus peur.
Donc, l'affichage prédominance en français, ça vous va,
ben
ça?
Oui, absolument. la francisation des immigrants, mais mettez tout dans le plat. On n'a pas le choix, je veux dire, on est notre langue, notre culture, on veut la protéger, on veut la défendre, mais il faut l'affirmer. On a un devoir de faire ça pour les prochaines générations.
Vous avez dit que vous avez eu Claire Sanson là-dessus, qui est venue, qui a traversé. Vous avez énormément de membres, beaucoup. Vous avez doublé le membership, comme on dit.
On a plus que doublé. On est passé de 500 à 35 000. On est 70 fois plus nombreux.
70 fois plus. Mais au niveau des candidats et candidates, est-ce qu'il y a des gens qui viennent cogner à la porte d'Éric Duhem?
Beaucoup. Sauf que là, le processus qu'on a fait, c'est que présentement, je suis en train de constituer des associations de circonscription dans les 125 comtés du Québec. On aura un congrès au mois de novembre pour décider du programme, du parti, de la plateforme électorale qu'on va présenter aux Québécois pour la prochaine élection. Et à compter du mois de janvier, on va commencer à annoncer des candidatures. Donc, on y va étape par étape. Là, on ne mettra pas charrue devant les bœufs.
Est-ce qu'il y a des gens qui viennent vous demander des personnalités?
Puis vous allez m'inviter, puis vous allez inviter quelques candidats dans quelques mois, j'en suis convaincu.
Donc, ça cogne. Un grand merci, Éric Duhem.
Merci beaucoup. S'il y a certains de vos auditeurs qui veulent se joindre au mouvement, allez sur conservateur.québec. Là, ça nous fera plaisir de vous compter parmi nous.
Merci.
Merci.